Chers auditeurs, c'est Jimmy. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle version en format podcast des rencontres polars de Jimmy. Le principe, nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir deux auteurs spécialistes du polar qui seront titillés, asticotés, mis sur le grill et que sais-je encore, par quatre chroniqueurs et enregistrés en public à la médiathèque de Fâche-Thumesnil. Dans cet épisode, nos deux premières victimes ont été Marc Falvaux et Franck Tillier, avec qui nous avons pu échanger et passer un superbe moment comme vous allez l'entendre. Je vous laisse apprécier l'éclairage que nous livre chaque auteur de son propre univers. Vous nous avez manqué. Merci d'être là. Les rencontres polars de Jimmy, c'est avec une nouvelle équipe pour l'enregistrement des interviews. Il y a Jack. Forcément, Jack l'éventreur.
Oui, mais ce soir, les couteaux sont pas très affûtés.
C'est vrai. Jack, il va aller voir ce que les auteurs ont dans les tripes, forcément. Il y a Élodie. Élodie, c'est autre chose, Madame Vulcain. Élodie, c'est une forgeronne. Ah, Élodie, les auteurs, elle en connaît pas mal. C'est elle qui organise avec Sébastien le formidable salon de polar des Forges Obscures. Alors, bien sûr, c'est sur le grill que la forgeronne va mettre les auteurs.
Attention.
Et puis, il y a Judith. Judith, ouais.
Il y a le fan club, là.
Judith a son fan club parce que c'est la taulière. Judith Masson. Elle pense à tout, Madame Masson, la bien nommée, qui a même fourni des truelles aux chroniqueurs en leur disant « Bienvenue chez Jimmy, c'est une première, il va y avoir des tonnes de plâtre à essuyer. » Bon courage à tout le monde. Merci Judith. Merci, merci. Et ce soir chez la taulière, nous ne sommes pas 20, nous ne sommes pas 30, nous ne sommes pas 40, on est combien là ?
100, 120.
On est 100, 120. Face à deux auteurs. Donc, merci encore à tout le monde d'être venu. Et c'est avec un énorme plaisir que nous recevons Marc Falvaux et Franck Tillier. Les deux font la paire et en plus, ils ont des univers doubles que nous ne manquons pas de questionner. On démarre avec la vedette de notre soirée, celui qui a fait déplacer les foules, celui pour qui on est tous venus, j'ai nommé Franck, Marc Falvaux.
Je me sentais mieux.
Marc, comment interroger quelqu'un qui est à la fois unique et multiple ? Tu es le seul auteur de polar que je connaisse qui n'inscrit pas son nom sur les couvertures de ses bouquins. N'est-ce pas intriguant ? Probablement le résultat d'une analyse ratée. Ton dernier, tu l'as confié à Stan Kurtz et celui d'avant à Chris Anthem. Et c'est sur cette base horticole que la médecine évoque à ton sujet le syndrome du concombre masqué. Et là, ça pose problème. Parce que Judith, notre taulière, dans la droite lignée de son aïeul Lulu la Nantaise, elle aime bien savoir à qui elle a affaire. Alors Judith, c'est toi qui commences l'auscultation.
Oui, merci. Je commence l'auscultation. Alors, Rimbaud disait « Je est un autre ». J'ai l'impression que Marc Falvaux dit « Je suis multiple ».
Nous sommes plusieurs.
C'est ça, et ça va bien.
D'ailleurs, c'est qui est présent aujourd'hui ?
Je vous laisse découvrir.
Les deux derniers sont très, très différents.
Ah, les deux que je vous ai proposés, oui, qui sont pas techniquement mes derniers bouquins sortis, mais qui sont mes derniers... Alors, polar dans la grande famille, parce que c'est vraiment... Même eux deux sont très différents l'un par rapport à l'autre. Ont été écrits donc sous deux identités différentes, mais c'est là où je suis pas très malin, c'est que il y a quand même mon nom sur le bouquin, mais il est derrière. Ce que je me présente en fait, c'est Marc Falvaux présente Stan Kurtz et Chrysanthème.
On va enchaîner en parlant de ton univers polar. Donc l'univers, c'est les romans, l'écriture, et puis bah tout ce que tu as envie de mettre dedans. Hein. C'est Élodie qui a un goût irrésistible pour les chinoiseries. Qui nous a proposé de faire le portrait
chinois.
Chinois. faire marrer.
Ah, si j'étais une fleur, si j'étais
un
oiseau.
Donc chaque chroniqueur peut, à partir de maintenant, spontanément te donner un thème en fonction de son état mental du moment. Et là, je te préviens, je suis vraiment responsable de rien. Donc là, moi, je démarre. L'univers de tes romans, si c'était une émotion ?
La colère.
Ouais, pourquoi ?
Parce que c'est pas très tranquille, ce que j'écris. Voilà. Ça paraît souvent tranquille, mais ça l'est pas, en vrai. Tout comme je suis quelqu'un qui paraît tranquille, et en fait, je le suis pas.
Alors, et si c'était un lieu ?
J'ai jamais situé aucun de mes romans. J'ai toujours appelé cette ville, qui n'a pas de nom, je l'ai toujours appelé la ville. Alors je crois que ça s'appelle... Enfin, si mon univers était un lieu, ce serait la ville. Point.
Et si c'était une époque ?
Alors, je vais dire forcément l'époque moderne, parce que même si y a des côtés rétro dans ce que je fais, c'est rétro parce que c'est rétro par rapport à la modernité, en fait. Donc forcément, l'époque ne peut être que la nôtre.
Et une ambiance, si c'était une ambiance ?
Faussement décontractée.
T'es quoi ? T'es un mec torturé ? T'es un clown ? T'es quoi ?
Un clown torturé, ça marche ?
Oui, ça marche.
Un peu tout ça, ça dépend qui parle.
Non, mais ça dépend, en fait, ça dépend. Je me prends pas du tout la tête quand j'écris. Alors, voilà.
Moi, j'ai un clown torturé, il est là.
Oh, oh ah, bravo. Alors, c'est joli. Pas très visuel, alors. Est-ce que tu peux le commenter ?
Bah, c'est le clown de... C'est un clown torturé.
C'est exactement. Ou c'est un clown qui torture les autres plutôt en fait.
Oui aussi.
J'étais un clown torturé quand j'étais seulement auteur et maintenant que je suis aussi éditeur, je torture les autres en fait.
Ouais. Voilà. Parce que si on prend les Stan Kurtz que tu écris, tu es souvent en rapport avec le lecteur. Et très clairement, c'est pour lui dire t'as vu ce que j'ai fait bien, là tu dois être content, tu cherches de l'amour.
On cherche tous de l'amour, tu sais.
Ouais.
Pourquoi tu as ce besoin d'interpeller le lecteur comme ça
Ah bon, déjà, je suis pas le premier à le faire, hein, mais j'avoue que Kurtz, c'est... En fait, dès le départ, la genèse de Kurtz, c'est que je voulais écrire des histoires de détectives privés, donc rétro-privé, années 50, un père chapeau mou, tout ça. Mais je voulais pas le situer dans les années 50, déjà parce que j'étais pas né, je sais pas comment c'était en vrai. Voilà, ça me faisait chier de faire de l'historique pur. Donc je me suis dit, je vais prendre un privé rétro années 50, mais à notre époque, même si l'époque elle-même a changé, parce que j'ai commencé à écrire Kurtz en 2008, on est en 2023, c'est l'époque de 2008 n'est pas la même que celle de 2023. Et je me suis dit, ça serait drôle si je partais du principe que c'est un privé, qui n'a pas de boulot, et qui se fait tellement chier qu'il décide d'écrire ses mémoires. Donc c'est lui qui écrit. Des Kurtz, j'en ai écrit quand même pas mal, et il y en a qui sont très portés sur l'intrigue et pas tellement sur la mise en abîme, et puis certains qui sont vachement portés sur la mise en abîme, surtout celui-là.
Oui, tout à fait. Celui-là, c'est lequel ?
Ça, c'est un Banquet de Squales, donc c'est le dernier Kurtz indépendant sorti donc un peu plus d'un an maintenant, et qui est une histoire, on va dire, à mi-chemin du polar et de l'espionnage. C'est-à-dire que je peux prendre deux minutes pour résumer de quoi ça cause ?
Alors, on te reprendra le porteur chinois après, tu crois que tu vas nous échapper.
Ah merde. Et ça commence par un rodéo en moto, parce qu'il a été engagé pour aller chercher la fille de quelqu'un qui a fait une fugue. Et donc, il doit intégrer un gang de motards. Donc, il se déguise en motard et il a l'air d'un con. Et il sait qu'il a l'air d'un con. Et on
tu
le
sais
suit.
Qu'il
donc
y a des motards dans la salle.
J'ai pas dit que les motards étaient des cons. J'ai dit lui habillé comme un motard, il a l'air d'un con parce que
il s'habille comme tu décris ton mec. Hein.
Son costume à lui, c'est l'impair et le chapeau mou. Sauf que faire de la moto comme ça, c'est pas pratique. Donc ça, c'est juste le prologue du bouquin où il va, voilà, un peu. Mais la vraie intrigue du bouquin, c'est quelqu'un qui se fait assassiner sur un quai de métro. Et en fait, ce qui est important, enfin, ce qui est intéressant, c'est pas le meurtre, c'est le fait qu'on lui ait volé sa main, qui est une prothèse, en fait. C'est pour ça qu'il y a une main sur la couve. Le mec mort, on s'en tape. Mais c'est ce qu'il y a dans la main qui est bien. Le polar pur bascule un peu dans de l'espionnage international, avec des trucs un peu, voilà, des factions, un peu, voilà, bref. C'est un vrai bordel, ou un vrai banquet de squales, d'où le titre, voilà, parce que c'est... Et donc, voilà, tout ça pour revenir à la genèse de Kurtz, je voulais un personnage qui soit l'unique narrateur, on est tout le temps dans sa tête, il n'y a jamais de point de vue autre que le sien, et en plus, c'est lui qui raconte. Donc des fois, il nous baratine, des fois, c'est pas vrai ce qu'il raconte. Mais comme il a envie de tourner les choses souvent à son avantage, ben, voilà, il s'en fout, il le fait.
Moi, j'ai été très surpris parce qu'il y a cette dichotomie, justement, d'événements, de personnages. J'ai pensé à Nausicaa, moi, un bassin de requins avec des requins gentils, des requins méchants. Alors, qui gagne, ça, je vous laisse vous lirez, comme ça vous saurez.
Est-ce qu'il y a vraiment un vainqueur, ça,
hein, voilà, ça c'est. Mais c'était vraiment très très chouette. C'est plein de rebondissements. C'est un peu plus soft que certains que tu as pu écrire. Oui. Et c'est, tu parlais de 2008, maintenant, ça me fait penser, c'est indémodable. Bon, le personnage, il est indémodable. Je vais dire, je vais faire des références qui valent ce qu'elle veut. Colombo, San Antonio, c'est tout à fait. Mais on les regarde encore, il y a toujours ce...
Et pourtant, parce que oui, évidemment, Colombo et San Antonio sont deux références que je ne peux pas occulter, mais qui sont en fait des références qui ne parlent pas tellement aux jeunes générations. Et pourtant, il y a des ados qui lisent Kurtz. C'est peut-être le fait qu'en fait, Kurtz, c'est un sale gosse avant tout, quoi. C'est-à-dire que c'est le mec, il est rebelle par principe. C'est-à-dire que c'est même pas tellement qu'il soit militant contre quoi que ce soit, hein. Il est juste rebelle par principe. Dès qu'il peut faire chier de monde, il fait chier de monde. Voilà. C'est de la fiction, hein, monsieur. Je me suis pas du tout
inspiré. C'est,
moi,
c'est, hein, ce, voilà, que j'allais te demander. C'est, voilà, de l'autofiction, ça.
Le monde change autour de lui, lui il change pas. Ça reste un sale gosse qui a pas grandi, en fait, finalement.
Élodie.
Il a un ton particulier quand même, Stan Kurtz. Il a des expressions, il parle pas comme tout le monde. C'est peut-être ça que les jeunes aiment aussi.
Et pourtant, le langage que Kurtz utilise n'est pas le langage des jeunes d'aujourd'hui, non, ni des jeunes de 2008, ni voilà. Mais peut-être qu'en effet, il y a une sorte de décontraction ou de liberté, voilà. C'est la liberté décomplexée. Ouais, c'est ça, c'est qu'il y a un côté décomplexé, en fait, dans Kurtz. Ouais. Il est cool et en même temps, il est tout le temps vénère, en étant cool. Voilà.
Et en fait, je pense qu'il y a aussi une vraie filiation d'écriture entre San Antonio et d'autres. Il y a beaucoup d'humour, en fait. C'est vrai, ces expressions, elles sont juste savoureuses. Et en fait, est-ce que c'est pas une façon aussi de faire passer le côté policier, entre guillemets, ou espionnage et autres, comment mettre une autre distance ou...
Alors, je vais dire quelque chose que je pense profondément, mais, et pourtant, c'est une soirée polar, mais en vrai, souvent, les enquêtes de mes polars, je m'en fous. Elles ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'enquête en tant que telle, ce n'est pas je vais essayer de faire l'enquête la plus originale, la plus surprenante, dont les rouages sont les plus maléfiques, machiavéliques. Non, ce qui m'intéresse juste, c'est comment. C'est, je prends Kurtz, je le jette à l'eau, et il ne sait pas nager, et je vois qu'est-ce qui se passe. Et donc souvent, c'est pour ça que souvent, les intrigues, que ce soit dans celui-là ou dans les autres, souvent, elles ne sont pas écrites d'avance, parce que de toute façon, je ne fais pas de plan, je fais pas... J'y vais au feeling. Et je tire sur un fil, et voilà. Et petit à petit, et moi-même, je découvre au fur et à mesure, en même temps que lui, qu'est-ce qui va se passer. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est juste comment lui va réagir, et comment lui va se sortir de la prochaine pire situation qui n'est jamais aussi pire que celle qui va arriver après, et voilà. Et à un moment, juste, j'en ai marre, alors j'écris le mot fin et c'est fini, voilà.
Qu'est-ce que t'en penses, Franck, qu'est-ce que t'en penses?
Ouais. Non, mais je comprends le processus, les gens seraient assez surpris, parce qu'en fait, moi j'avais déjà posé la question, parce que moi c'est vrai, c'est plutôt l'inverse, je prépare mes livres, et j'essaye de les préparer au maximum, mais quand on demande aux auteurs... s'ils préparent leur livre ou s'ils y vont feeling, mais en fait, il y a plutôt la moitié, c'est moitié-moitié, quoi. C'est vraiment des gens qui, comme Marc, partent juste d'une idée comme ça au départ et tirent le fil et avancent. Et vraiment, à la lecture, parfois, ça se voit pas, quoi, en fait. Il n'y a aucun moyen de détecter que...
Ben, c'est qu'en fait, ce que toi, tu lis quand tu as le bouquin dans les mains, c'est pas le premier jet. En fait, tout réside là. C'est que des fois, je me paume. C'est-à-dire que j'essaie des trucs... des embranchements de l'histoire qui, en fait, fonctionnent pas, alors ben, je m'arrête, puis je rétrograde, et puis je repars en sens inverse pour un autre truc, sauf que c'est 3, 4, 5, 10 pages de merde que j'écris, là, et ben, je les coupe, et vous les lisez pas, en fait.
Merci.
Voilà, c'est ça. Non, mais j'essaie de vous épargner merci. Un peu, quand même. Hein,
si tu veux, on peut te...
Je dis pas que je laisse pas des conneries dedans, hein. Parce que c'est vrai que, voilà. C'est... Ouais.
Et il te faut combien de temps, à peu près, entre le début et la fin de l'écriture d'un livre?
Alors, du premier jet ou l'écriture totale?
Non, pour le jusqu'au bout, jusqu'à l'édition, je veux dire. Jusqu'au dernier...
Ça dépend du nom que je prends. Ouais, je sais, c'est pas simple.
Non, mais c'est complètement bipolaire.
Ouais, mais si on est quatre, c'est bipolaire ou c'est quadripolaire?
C'est personnalité, voilà, multiple.
Multipolaire.
Attention, je travaille en psychiatrie.
Il y en a qui écrivent plus vite que d'autres.
Ah oui, ah bah, Chrysanthème, c'est celui qui écrit le plus vite. Abîme, je l'ai écrit en 8 jours, pour vous dire. Voilà. Voilà. De manière C'était un long trip. C'est pour ça que le bouquin lui-même est un long trip. Je conseille de le lire d'une traite, si c'est possible. En même temps, il est court. Hein, mais après, c'est le premier jet qui m'a pris 8 jours. Et après, je l'ai laissé de côté. Et je l'ai repris des mois plus tard. Je l'ai réécrit, j'ai recorrigé, refait des trucs. Évidemment, ça prend plus de temps. Mais on va dire que l'impulsion de base, c'était 8 jours. Kurtz, souvent, c'est un mois.
Et toi, Franck, tu mets combien de temps à écrire un bouquin ?
Bah, moi, c'est d'une année sur l'autre, à peu près. Voilà, alors après, c'est... y a une partie de construction hein, qui prend du temps. Je fais pas mal de recherches aussi, qui demande voilà du temps. Et puis après, les livres sont assez gros hein, et en fait, c'est plutôt assez mécanique. C'est-à-dire, plus c'est gros, plus c'est long à écrire. Enfin, si il y a quand même un moment donné, il faut écrire les pages, quoi. Il faut ouais. les sortir. Et moi, je peux pas écrire. J'ai pas de fièvre d'écriture absolue, donc c'est un petit peu tous les jours. Et donc, à la semaine, je ne peux pas écrire plus qu'un certain nombre de pages, ce qui fait que... Voilà,
et je ne peux plus le faire maintenant. Je suis trop vieux maintenant, j'y arrive plus.
Oui, ce n'est pas évident. Mais même, on parlait de Simenon tout à l'heure, et lui, je crois qu'il écrivait aussi... il écrivait des livres en 15 jours, ça lui est arrivé, je crois. Et de manière générale, c'était en un mois ou deux, il écrivait des livres. Donc qui était gros, en plus, donc finalement... C'est...
Et t'es un peu saisonnier, c'est-à-dire que ton bouquin, souvent, il sort au printemps, mais ça veut dire que t'as commencé à l'écrire, quoi. Tu commences à brosser les traits à l'été, puis après, tu l'écris à l'automne, ou tu corriges en hiver.
En général, je finis mes romans... Oui, moi, c'est vraiment très régulier.
Ouais. Et c'est fascinant, hein.
Oui, mais là, Franck, moi, mon petit doigt m'a dit que le bouquin de l'année prochaine, il est déjà fini, là.
Oui, quasiment, oui. Ouais, ouais. Ouais,
bah, Donc il faut nous en dire un petit truc. Il faut qu'on ait un scoop.
Un scoop ? Ah, je sais pas.
Le filou. Le filou.
Oui. Bah, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que je l'ai fini. En fait, en général, je finis mes livres en ce moment, quoi. Ouais. Ce qui est pas si... ce qui est pas si délirant que ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression... mais c'est loin. Mais en fait, à l'échelle de l'édition, c'est... C'est bien pour l'éditeur de déjà disposer du texte, parce que comme ça, on peut le retravailler, on peut... Ça peut parcourir un peu le circuit classique. Et puis, en fait, il est prêt assez tôt, c'est-à-dire début d'année. Ce qui fait que les libraires, tout ça, peuvent l'avoir en main quelques mois avant la sortie, ce qui n'est pas plus mal. Voilà, s'ils ont le temps de le lire. Juste pour résumer un petit peu, ça sera un roman indépendant qui va se passer dans le Grand Nord québécois, où il fait très très froid, et dans une ville qui est complètement isolée. C'est une espèce de huis clos à ciel ouvert. Moi, j'adore les huis clos. Et donc, il y aura un meurtre dans cet environnement complètement isolé. Petite ville de 2000 habitants, et de se dire qui a commis ces atrocités.
Isolés, hein.
Oui, j'aime bien. Oui, ça crée une tension. Moi, ça fait longtemps que j'avais envie... Enfin, le froid... L'obscurité, tout ça, c'est les éléments de la nature me fascinent, et donc j'aime bien les mettre dans les histoires. Et voilà, donc ça va se passer tout là-bas, très loin.
Élodie.
Et en fait, Franck, tu nous livres quelques secrets d'écriture dans ce petit livre qui s'appelle Le plaisir de la peur. Et tu parlais du retravail. Moi, je sais, parce que je l'ai lu, qu'il est déjà beaucoup retravaillé, ton livre.
Oui.
Parce que ça m'a impressionné toutes les semaines. Tu relis
ce que j'ai écrit.
Tout ce que tu as écrit.
Oui. Alors en fait, c'est mon rituel. Moi, c'est vrai que le lundi, matin, je relis ce que j'ai. Non pas ce que j'ai écrit la semaine d'avant, mais tout depuis le début. Alors au début, quand il y a 10 pages, ça va.
Quand tu es en train de.
Oui.
Ouais. Ok, tu relis tout pendant que tu es en train d'écrire.
Lundi, en général, je fais ça. Et, alors quand c'est le début, les 10 pages, ça va vite à lire. Puis quand je suis à la moitié du livre, je relis. Parce que en fait, j'ai. Déjà, c'est pour connaître le livre par cœur, c'est-à-dire que de savoir exactement où j'en suis dans l'écriture, les détails, parce que il y a beaucoup de détails. Et le fait de relire, ça, en fait, ça me permet à chaque fois de recorriger des petites choses que je détecte à la relecture par rapport à ce que je suis en train d'écrire, hein, parce que en fait. J'ai beau préparer, c'est-à-dire, on essaie toujours de préparer. Ouais. Oui, c'est vrai pour tout le monde. C'est-à-dire, on a beau essayer de préparer un maximum, mais quand on écrit, il y a la magie de l'écriture qui fait qu'on dérive, forcément, et il se passe des choses qui sont complètement pas prévues. Et donc, quand en fait, je suis en train d'écrire et qu'il se passe un truc après, je me dis, bah ouais, c'est génial, donc j'écris ça. Mais ça a des implications.
Des fois, ouais, c'est ça, oui, c'est des fois le truc imprévu, en fait, bah change d'autres forcément. Éléments que tu avais dans ton plan.
Ouais, et donc ça, c'est pour ça que le lundi, en général, ça me permet de. Ce que j'ai écrit dans la semaine, qui sont des trucs imprévus. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais d'un seul coup, j'ai envie de faire manger du chocolat, afin de faire que le personnage, il mange du chocolat tout le temps. Alors là, je fais manger du chocolat, je dis parce que ça apporte quelque chose. Et donc, je me dis, bah, il faut l'introduire.
Oui, les fois d'avant, où on l'a vu.
Les fois d'avant, donc c'est pour ça, quand je relis, j'introduis ces choses-là, et je sais où le faire, parce que je le connais. Donc voilà, c'est pour ça qu'en fait, en général, quand j'ai fini mon livre, je ne peux plus le lire, je ne le supporte plus. Donc je renvoie ça et fini.
Ça, c'est un classique. Donc vous avez vu, hein, aux Rencontres Polars de Jimmy, les auteurs s'autochroniquent.
Oui, bravo. On est bien là.
Bah ouais, on est pas mal là. On est pas mal.
Une question.
Oui, moi j'avais une question. Alors qui la première était pour Marc. Je trouve que dans les différentes personnalités, on va appeler ça comme ça, en fait, que ce soit dans le gore ou dans Stan Kurtz, ce qu'on ressent vraiment, c'est une jubilation de l'écriture, en fait.
C'est ce que toi t'as senti. Mais alors déjà, en vrai de vrai, il n'y a pas plusieurs personnalités. Hein. Il n'y a que moi qui écris, voilà, derrière. C'est-à-dire que, en fait, je pense que si un jour je suis étudié à la fac, c'est ce qui me ferait, je pense, assez horreur, tout en me faisant marrer, en fait, en vrai. En fait, on découvrirait que c'est vraiment la même personne qui les écrit, simplement, juste, je raconte pas le même genre d'histoire. Donc la jubilation, elle vient peut-être après coup. Je t'avoue qu'elle ne vient pas tellement quand je suis en train de le faire. Quand je suis en train de le faire, j'ai qu'une envie, c'est de finir le plus vite possible. Voilà. Je suis un éjaculateur précoce de l'écriture. Voilà. Parce que ça me met dans un tel état d'écrire un bouquin que plus vite j'ai fini, plus vite je suis tranquille. Voilà. Par contre, j'aime bien relire. Tu vois, la phase relecture-correction, ça me plaît parce que le bouquin, il existe. Voilà. Il y a un premier jet, aussi pourri soit-il, il est là. Et donc, comme il est là, je suis rassuré. Et donc, comme je suis rassuré, là, je prends beaucoup plus de plaisir à relire et à corriger, alors que le premier jet, c'est une torture, on peut le dire. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'écris vite, parce que sinon, je deviens fou, en fait, vraiment. Et je rends fou les gens qui vivent avec moi aussi. Voilà.
OK. Franck, toi aussi, t'as l'impression d'être Barjot de temps en temps ?
Oui, on doit l'être un peu, de toute façon... les gens, en tout cas, pensent ça en général. Ils ont l'impression qu'on est des espèces de. Je sais pas.
Comment tu as fait pour donner du plaisir à la lecture de ton dernier La Faille, avec un sujet dont tu vas nous parler, qui est vraiment très,
oui,
très fort. Et d'ailleurs, à la fin de ton roman, tu mets une note là-dessus.
Oui.
Hein, pour donner quelques explications. Tu peux nous en dire plus sur La Faille ?
Oui. Alors, c'est moi, j'aime bien prendre dans mes romans un gros sujet que je vais traiter. Et c'est vrai que pour La Faille, j'avais envie de traiter le sujet de la mort, qui n'est pas un sujet facile.
C'est pas fun comme sujet.
Non, c'est pas fun. Ouais. Et en fait, ce qui m'avait bloqué, hein, parce que ça fait longtemps que j'avais envie de. Enfin, que ce sujet-là me trottait en tête, c'est de ne jamais oublier quand on lit un livre, un roman. En tout cas, ça doit rester un plaisir, le roman. Hein, après, il peut y avoir d'autres livres qui sont pas forcément... Quand on lit un livre historique, tout ça, c'est pas forcément du plaisir. Mais en tout cas, le roman, on doit garder cette notion de romanesque, de plaisir. Les gens achètent ce genre de livre pour le plaisir, même du polar. Hein, c'est-à-dire que le plaisir à suivre une enquête, des personnages, à se faire peur, à frissonner. Et je me suis dit, avec un sujet comme ça, est-ce que cette notion de plaisir va rester ? Parce qu'on ramène... Parler de la mort, ça va toujours ramener les gens... Alors un peu à cette condition et cette deadline qu'on a tous, qui est notre propre mort. Donc voilà, j'avais ce doute-là. Mais je me suis lancé parce que c'était plus fort que c'était le moment de le faire. Il y a eu le Covid, donc la mort s'est un peu invitée dans nos foyers, hein, si vous vous rappelez, les décomptes. Et je me suis dit, c'est le moment de le faire, je l'ai fait. Et après, voilà, il fallait trouver le moyen de traiter ce sujet pour ne pas que ce soit qu'on ait envie de se suicider après avoir lu le livre, mais qu'on ait gardé quand même cette notion de plaisir, mais avec quand même une réflexion.
Alors, on n'a peut-être pas envie de se suicider, mais je peux te dire que...
Ça secoue.
Ça secoue. Alors ça, c'est bien, parce qu'en fait, quand ça secoue, c'est ce qu'on essaye de faire aussi dans les livres. Il faut que ça fasse les deux, c'est-à-dire il faut à la fois que ça secoue, mais que ça apporte le plaisir, une espèce d'équilibre. En fait, toute l'écriture, l'exercice en tout cas que j'essaie de faire dans les livres, c'est de trouver cet équilibre entre justement le loisir, et puis quand ça devient un peu trop lourd dans les sujets, parce que voilà, de repartir sur des choses un peu plus romanesque, énigmatique. Il n'y a jamais ça reste du polar, donc ça reste quand même sombre. Enfin, ça reste une trame sombre.
Mais d'ailleurs, tu peux écrire tout ce que tu veux.
Oui. Alors, celui-là, il y a beaucoup
justement,
de choses.
Parce que Franck Tillier, c'est pas juste un auteur, c'est une machine. Avec un calendrier.
Il y a des.
Tu peux vraiment faire ce que tu veux.
Oui. On peut faire ce qu'on veut. Après, c'est la manière dont on va l'écrire. Après, il y a des sujets qui sont peut-être plus... vers lesquels je n'irai pas forcément. Dès qu'on touche aux enfants, ces choses-là, parce qu'en fait, c'est très compliqué de réussir à apporter du plaisir quand on ramène à des choses comme ça, qui sont beaucoup dans l'actualité.
Justement, moi, j'ai une question. Est-ce que tu n'as pas eu des craintes sur un certain sujet? Parce que, sans spoiler, il y a quand même un angle éthique dans l'intrigue. Oui. Et moi, je me suis dit, il est quand même couillu de choisir ce thème-là, parce que je ne suis pas sûre que ce livre serait passé partout pareil, et que, par exemple, aux États-Unis, tu ne te prendrais pas les esclandres des pro-life plein dans la tronche.
Est-ce que tu as eu des réactions de ce type ?
Enfin, j'ai vu quelques commentaires un peu... Alors, juste pour résumer, c'est-à-dire, en fait, il y a une partie de la trame qui parle de est-ce qu'il faut débrancher quelqu'un ou pas. Donc les pro-life, c'est ceux qui disent non, il ne faut pas débrancher, il ne faut jamais débrancher, arrêter une vie. Et puis après, il y a la raison, et puis tout un tas de raisons qui font qu'il faut débrancher.
Et tu pousses le bouchon, parce qu'il y a aussi la vie avant la naissance dans ton...
Oui. C'est un cas compliqué, mais qui peut exister. C'est ce qui a rendu, en fait, le livre intéressant. C'est-à-dire, il y a deux histoires dans la faille. Comme souvent dans mes romans, il y a la grosse intrigue policière, et puis il y a aussi une intrigue liée au personnage, souvent, et dont cette personne entre la vie, même morte cliniquement, mais est-ce qu'il faut débrancher parce qu'elle porte la vie, en fait. Voilà, c'est de dire, est-ce qu'on débranche cette personne qui est morte, mais et ce qui fait qu'on débranche aussi le fait que, comme elle est enceinte, le bébé part avec la mère, ou est-ce qu'on la maintient artificiellement pour pouvoir faire naître l'enfant, sachant que dans les deux cas, c'est un cas éthique, donc c'est extrêmement compliqué dans les deux cas. Est-ce que les familles veulent, est-ce que les médecins veulent, l'opinion, tout ça. Et c'est ça qui était intéressant. En fait, cette partie-là, en termes d'écriture, de volume, je ne sais pas, c'est peut-être 10% du livre. Vraiment, quand on prend le nombre de pages... Et pourtant, en fait, c'est ça qui avale tout, en fait, parce que c'est les émotions. Ça nous touche. Et moi,
comment on peut avoir du plaisir à lire ça ?
Le plaisir, c'est parce que déjà, c'est ce qui est propre à tous les polars. C'est-à-dire, ce que propose un polar, en général, c'est d'aller... propose au lecteur d'aller mettre son œil dans le trou de la serrure pour voir ce qui se passe derrière. C'est-à-dire, on a tous un peu une fascination, quand même, pour ce qui est un peu en dehors des clous. C'est-à-dire, on a nos vies qui sont... normé, il faut suivre les lois, il faut bien conduire, il ne faut pas dépasser 50 à l'heure. Et puis quand vous lisez un polar, vous avez moyen un peu de tiens, il y a eu un meurtre, il y a quelqu'un qui a été capable de commettre ça. Et donc, c'est le principe du fait divers, c'est-à-dire on sort de l'ordinaire et il y a une fascination vraiment pour ça. C'est ce qui est proposé dans nos livres, c'est-à-dire de franchir un peu ces frontières-là, ce qui fait qu'on va vers ces lectures-là. Première raison. Deuxième raison, c'est le besoin de se faire peur, ce qui est quand même un instinct... C'est-à-dire qu'en fait, la peur, c'est l'instinct de la survie. C'est la peur qui fait qu'on est encore là aujourd'hui, après des milliers d'années.
C'est l'un des sentiments les plus forts.
C'est l'instinct de survie, en fait. Ouais. C'est la peur. Les Cro-Magnons, etc., ils avaient vraiment peur des serpents, parce que c'est une question de survie et des araignées. Nous, dans nos foyers, ça ne va pas nous tuer. Et donc, on a besoin, en fait, quelque part, de maintenir cet instinct qui est présent en nous, de le faire s'exprimer. Et donc, quelque part, on le fait s'exprimer à travers ces histoires-là. On l'exerce, en fait. C'est ce qui nous amène vers ce genre de lecture. Alors, il y a tout un tas d'autres raisons. Mais c'est pour ça qu'on lit ces livres-là, je trouve.
Jacques, comment tu l'as ressenti, ce livre?
C'est toujours cette curiosité qui, pour moi, n'est pas maladive, qui est justement, il faut la développer, cette curiosité, de vouloir aller de l'autre côté du miroir, avec tout ce mystère, cette peur, mais cette envie d'être confronté à cette peur. Et je trouve que c'est vraiment, excusez-moi le terme, mais pour moi, c'est jouissif, parce que on est vrai, ça amène à réfléchir, comme tu disais, bon, c'est des trucs très... très lourd, mais qui amène à réfléchir sur la vie de tous les jours. Et moi, ça m'a posé une question donc qui concernait deux, mais je te la pose à toi. Alors, d'où vient ton inspiration? Est-ce que c'est un petit génie qui sort d'une lampe plagique, un truc, un fait d'actualité, quelque chose qui est caché en dessous du lit, un souvenir? Comment les idées l'idée te vient au départ?
C'est un peu tout ça. C'est moi, pour moi, c'est dans l'écriture. Toi, c'est le fait d'écrire. Moi, c'est de trouver l'idée qui est la partie la plus pénible pour moi, dans ce processus-là. C'est-à-dire, c'est toujours un enfer entre le moment où je termine un livre.
De quoi je vais parler.
Oui, oui. Et moi, ça dure. Enfin, non. Je dis ça dure longtemps. J'écris un livre tous les ans, ce qui est quand même rapide. Mais en fait, dans cette proportion de un an.
T'as jamais été coincé?
Non, mais c'est des fois, c'est les semaines passent, les mois, et je trouve pas l'idée, quoi, en fait. Et donc, c'est toujours angoissant. Et il n'y a pas de règle, il n'y a pas de... Il ne faut pas attendre dans ce fauteuil que l'idée arrive. Le truc de l'illumination, ce n'est pas vraiment ça. C'est un peu comme une... Je ne sais pas... vous savez, les terres un peu agricoles, la terre a produit tous ces légumes, etc. Et puis, à un moment donné, après la production, elle est un peu rincée, elle se mange à chair. En fait, on a l'impression qu'elle est morte, cette terre. Mais en fait, elle est en train de se reconstruire... Je pense que c'est un peu ça, c'est-à-dire je ne peux pas repartir après avoir écrit un livre comme ça. Directement, mon cerveau, il est un peu vidé. Et le fait de chercher une idée, parce que c'est vraiment de la recherche d'idées...
C'est le baby blues.
Oui, bah, il y a ce soulagement d'avoir fini un livre, et en même temps, de se dire, ouais, mais voilà, il faut en écrire un autre. Enfin, je dis, il faut, c'est pas...
Bah si, il faut, en fait.
Oui, il faut. Et en fait, c'est un truc sans fin, quoi. C'est...
T'as jamais fini. Ouais. C'est-à-dire que c'est autant toi que moi, il faut pour une question
de
plaisir littéraire, financier aussi. Bah, c'est ton boulot, c'est mon boulot. Alors là maintenant, mon boulot, c'est plus éditeur que auteur, si on parle de revenus, disons. Mais il faut, parce que bah, comme il faut aller bosser, il faut des fois j'ai écrit des bouquins en allant bosser.
Il y avait plus un éditeur qui voulait t'éditer que.
Eh ben si tu veux, j'ai eu 6 éditeurs en tant qu'auteur pendant presque 10 ans. Et à un moment, je me suis dit, stop, voilà, j'ai plus envie. Donc soit j'arrête d'écrire, c'est un peu ce que j'ai dit à ma femme, je dis soit j'arrête d'écrire, soit je monte une maison d'édition. Et elle m'a dit, non, t'arrêtes pas d'écrire, tu vas être trop chiant. Donc j'ai monté une maison d'édition, voilà, pour être à mon compte. Sauf que je voulais pas juste m'auto-éditer, en fait. Voilà. Je voulais monter quelque chose pour moi et aussi bah, pour d'autres, quoi. Puis maintenant, on est 15. Voilà.
Et l'éditeur Marc Falvo pense quoi de l'auteur Marc Falvo?
Elle se passe bien, la relation éditoriale?
Ah bah, puisque j'écris plus, tout va bien. Voilà. Et l'auteur, il est content de moins écrire, là. Parce qu'en vrai, j'ai écrit... Alors, pour te dire, j'ai écrit 45 romans en 10 ans.
T'en as encore dans ton coffre, quoi.
J'en ai encore dans mon coffre.
T'as combien de romans, Franck?
22, je crois. J'ai encore de la marge.
Et tu disais que Franck écrivait beaucoup.
Eh ben, à une époque, justement, le tournant 2015-2017, j'écrivais beaucoup, 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 beaucoup. Pour l'argent, hein, avant tout, il faut être honnête. Hein. J'ai beaucoup écrit à la commande, voilà. Dans plein de genres différents, voilà, dont certains qui ne sont jamais sortis, mais qui existent. Et puis ben, maintenant, j'écris moins, j'écris ce que je veux, et l'éditeur, il est content, parce que comme ça, il a moins de bouquins de l'auteur à sortir, et il sort vraiment ceux qui lui plaisent, voilà. Comme ça ils sont contents tous les deux, quoi. Enfin, je pense, voilà.
Ok, alors moi, Franck, dans ton univers, je remarque quand même que tu tournes évidemment autour de la science, mais ça, tu l'as déjà expliqué, le côté ingénieur... prends le pas, mais il y a quand même beaucoup de thèmes qui tournent autour de la médecine, moi, je trouve. On a eu beaucoup la mémoire, l'immunité, la biologie moléculaire. La biologie moléculaire, j'en ai fait à la fac de médecine, c'est un morceau quand même. Et dans Gattaca, il y a du niveau. Donc, il y a quand même la psychiatrie en fond, en fil conducteur. Du coup, moi, je me posais la question, Est-ce que Franck Tillier, il s'est pas trompé de boulot et il voulait pas devenir médecin, en fait?
Non, 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 non. Mais c'est ce qui est en plus fascinant dans l'écriture, justement, c'est que ça me permet de faire plein de enfin, en tout cas, d'apercevoir, d'avoir des aperçus de plein de métiers. C'est ça qui est génial. Quand je fais justement mes recherches, pendant une semaine, je vais aller voir les médecins, je vais aller voir des policiers, je vais aller voir des juges, des spécialistes de la mémoire. Et c'est génial parce qu'en fait, on idéalise souvent les métiers. Hein. C'est vrai que, par exemple, à un moment donné, il y a eu la série Les Experts, et tout le monde voulait faire la police scientifique. Ah, c'était génial. Il y a eu plein de jeunes, il y a eu des recrudescences monstrueuses dans les labos de police scientifique, où tout le monde voulait faire la police scientifique. Mais quand vous allez dans un laboratoire de police scientifique et que vous voyez le métier d'un laborantin X, en fait, il n'y a rien de glamour comme métier. C'est-à-dire qu'il reçoit des enveloppes, il y a des trucs à mettre sur des pipettes, puis il met ça à la machine, puis il récupère des... Enfin, je schématise. Hein,
c'est pas très fun, quoi.
Il y a des trucs plus passionnants. Mais voilà, en fait, c'est fascinant à voir. C'est-à-dire, c'est génial d'avoir des aperçus de ça. Et pareil dans la police. Enfin, moi, on se dit, j'adorerais être policier, aller sur les scènes de crime. Enfin, on a tous, à un moment donné... Enfin, tout ça. Pardon, peut-être.
Non,
c'est vrai. Non, mais de se dire, ouais, d'aller voir un peu comme ça une scène de crime, de se dire qu'il y a commis le crime et tout. Parce qu'on voit ça dans les séries et que ça a l'air fascinant. Puis on se dit, derrière, il doit y avoir un tueur super intelligent. Je vais trouver qui c'est parce qu'il va laisser une trace. Mais en fait, vous demandez, c'est un policier. Pour lui, c'est horrible tous les jours d'être appelé puis d'aller sur des trucs qui sont absolument terrifiants, horribles, parce que tout n'est pas mis en scène comme à la télé, et que souvent...
Et puis tout ce qu'on ne voit pas non plus, bah oui, toute la paperasse.
Oui, la paperasse, puis souvent, c'est des crimes bien sordides, liés à des choses basiques de la vie, dans des milieux, la plupart du temps, défavorisés. C'est ça, la réalité de ce qu'il voit tous les jours. Donc, en fait, moi, avec mon œil d'écrivain, c'est bien, parce que j'ai accès à ça, et puis à un moment donné, je repars avec nourri un peu de ce que j'ai pu voir, pour écrire mes histoires. Mais c'est vrai que la médecine me fascine. Enfin, tout ce qui est... C'est pas que la médecine, c'est tout ce qui est, en effet, autour de comment fonctionne un être humain, comment on marche, comment ça marche la mémoire, le cerveau, enfin, toutes ces capacités qu'on peut avoir. C'est un peu mon approche du polar, d'essayer de comprendre le passage à l'acte, parce qu'on a... Tu disais tout à l'heure, ça commence souvent par un meurtre. Pourquoi ce meurtre a eu lieu? Mais d'un point de vue, peut-être, effectivement, qu'est-ce qui fait, à un moment donné, que... une personne particulière a commis cet acte-là. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pour en arriver là? Et donc, voilà. Moi, c'est ça qui m'intéresse, qu'on retrouve dans la majeure partie de mon livre. Quand on fabrique des personnages, quand on les crée, il y a les personnages qu'on voit, hein, qu'on doit connaître par cœur, mais nous aussi, on doit connaître le meurtrier par cœur. C'est-à-dire, c'est un personnage que les lecteurs ne vont jamais voir. En tout cas, ils vont le voir par les traces qu'il laisse. Hein, derrière lui, un crime, c'est quelque part une photographie du criminel. Mais en général, on le voit qu'à la fin. En tout cas, dans mes livres, on le découvre qu'à la fin. Mais par contre, moi, je le construis comme un personnage à part entière. Il faut que je le connaisse par cœur pour pouvoir, pour qu'il soit réel en fait, même si on le voit pas, parce qu'on le, pour que quand on arrive vers lui à la fin, on soit pas complètement désarçonné et surpris, et qu'on se dit, quelque part, c'était logique de tomber sur ce personnage-là. Quoi.
Il y a aussi le thème des expériences de mort imminente.
Oui.
Et
qui marque beaucoup, le lecteur. On sort lessivé. Hein, de
ouais, qui questionne beaucoup sur finalement, je vais finir où, moi? Et du coup, j'aimerais bien rencontrer les experts que tu as pu... voir pour discuter avec eux de mon propre sort, quoi.
Oui, oui. Après, les experts ou les gens, enfin, c'est surtout les gens, finalement, qui vivent ça. Les expériences de mort imminente, c'est des gens qui, à un moment donné, ont un arrêt cardiaque, ou font un AVC, où les fonctions vitales s'arrêtent, et puis qui reviennent à la vie 10 minutes plus tard, parce qu'on les réanime, et qui racontent des histoires comme ça. Des histoires de ce qu'ils ont vu alors qu'ils étaient complètement inanimés, inconscients, où il n'y avait même pas de signaux dans le cerveau. C'est ça qui est surprenant dans les expériences de mort imminente, c'est-à-dire les témoignages, en fait. Et souvent sur des tables d'opération, d'ailleurs, où ils sont opérés, ils sont anesthésiés au plus profond degré, donc le cerveau, c'est vraiment une ligne droite. Il n'y a aucune variation, et ils sont Pourtant, quand ils se réveillent, certains sont capables de raconter, de dire « Ah ben, j'ai vu tel instrument en train de... » Enfin, ils ont une vue comme ça. Et la science s'oppose à ça. C'est-à-dire, la science essaye de donner une explication. Et c'est ce que je retranscris dans le livre. Mais c'est intéressant. Et il y a... Alors, mais il n'y a toujours pas de réponse. Voilà, on ne sait pas. Et en fait, c'est bien. Enfin, je trouve... Moi, j'aime bien aussi avoir ça dans mes livres. C'est-à-dire...
Ne pas tout
avoir
savoir.
Encore, bah oui, ne pas tout savoir. Avoir encore des choses à découvrir. Sinon, le monde serait bien fait si on avait les réponses à tout. Donc, il y a encore plein de questionnements et heureusement de mystères qui nous entourent.
En parlant de questionnements, Judith, une question ?
Oui, j'ai une question. Alors, on va entendre quelques secondes d'un morceau de musique. Tu fais référence à un morceau Henry Lee de Nick Cave et PJ Harvey.
Ah oui, oui.
À plusieurs reprises.
Alors, il y a le Boléro de Ravel aussi, mais je voulais savoir, en fait, pourquoi ce morceau, pourquoi Nick Cave, qui est quand même un avatar de Dieu sur Terre, il faut le dire. Donc, dans ce livre qui est un peu l'enfer, c'est juste génial. Et est-ce qu'il y a d'autres morceaux de musique qui ont traversé, qui t'ont aidé à, ou qui t'ont porté sur l'écriture de ce livre, ou d'autres livres aussi, d'ailleurs
Oui, alors ce morceau-là, c'est vrai que bah, c'est parce que déjà c'est une chanson que j'aime beaucoup, que j'avais écoutée plein de fois avant au moment où je pensais au livre. Donc en fait, ça s'est intégré dans mon histoire. En fait, enfin, il y a de ça aussi quand il y a les choses factuelles quand on recherche une idée. Puis après, il y a les choses dont on se nourrit, des visites, des voyages, des musiques. Donc et puis Nick Cave et PJ Harvey, c'est, je crois que tout l'album, c'est
Murder Ballads.
Oui, c'est autour d'un tueur en série qu'on retrouve, qui commet différents crimes. Donc, et dans les paroles, il y a aussi un lien avec ce qui arrive à un des personnages, puisque eux sont, il y a un couple qui est séparé en fait par un crime, et c'est ce qui arrive au personnage. Donc, il y a cette résonance là. Et puis il y a l'autre Boléro de Ravel, mais ça fait partie de l'intrigue aussi. Ils expliquent pourquoi. C'est, à un moment donné, mais moi j'aime bien mettre beaucoup de sens dans mes livres. Les cinq sens, en fait, c'est une écriture très très sensitive, sensorielle, de jouer avec les sensations qu'on peut avoir en lisant. On peut avoir froid, on peut avoir du frisson, on peut entendre des choses, beaucoup de visuels, et c'est les sens qu'on retrouve, parce que par rapport au cinéma, à la musique, oui. Tout ça.
Et donc la musique, c'est un excellent thème pour s'arrêter.
Okay.
On pourrait continuer longtemps.
On pourrait, c'est vrai.
Et alors ce soir, on a assisté à une première, donc c'est la première des Rencontres Polars de Jimmy en version podcast, et vous avez eu... l'honneur et l'avantage d'avoir 6 chroniqueurs. Merci.
Pour le prix de 4.
Les auteurs,
on a le prix.
C'est la promotion.
Ouais, écoute, merci. Merci à toi de m'avoir invité. Super. Voilà. Puis merci à vous. Merci à toute l'équipe. Merci au public qui applaudit quand on lui demande. C'est bien.
Bravo. Vous avez essuyé les plâtres de notre première émission. Est-ce qu'on en fait une deuxième ?
Oui !
Ok, merci à tous. Merci aux auteurs, merci à tous. Et maintenant, donc, on se rencontre. C'était le premier épisode des Rencontres Polars de Jimmy en format podcast avec comme chroniqueur Judith Masson, Élodie Lemaire, Jacques Thomas, est présenté par votre serviteur Jean-Marc Demetz, dit Jimmy, avec comme invité Marc Falvaux et Franck Tillier. Je les remercie et vous invite à retrouver leurs ouvrages chez votre libraire préféré. Ce podcast a été enregistré en public à la médiathèque Marguerite Yourcenar de Fâche-Thumesnil. L'enregistrement, la réalisation et la musique de ce podcast ont été montés, mixés et produits par Fred Candeil pour Podcast by La Fabrique. Nous remercions aussi Corinne et Thierry Loustouré, le groupe Les Custos, Caroline Leclerc de la librairie La Ruche aux Livres, ainsi que la ville de Fâche-Thumesnil. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux comme sur notre page Facebook Les Rencontres Polars de Jimmy. Et surtout de vous abonner à ce podcast pour profiter de nos prochains épisodes avec encore des invités exceptionnels.